C'est ici que prend fin ce bulletin. Merci.
Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Sporama, votre émission qui parle du sport tous les lundis à partir du 19h temps universel sur la Voix de l'Amérique. Élisée Mpati devant ce micro. Au sommet ce soir, élection à la Fédération Ivoirienne de Football. Le suspense reste entier au sujet de la liste de candidatures. La commission se donne du temps, mais Sori Diabaté a mis le turbo et fait campagne avant même la publication de la liste officielle. Élection, on en parle encore et cette fois, on se rend au pays des hommes intègres. Deux candidatures validées par la commission électorale. Et puis, la FIFA a dévoilé une préliste de 6 arbitres africains retenus pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Et pour parler de tout ceci, on retrouve comme d'habitude nos consultants. On prend la direction de Kinshasa pour retrouver Valdo Simbo Nyamba Yamba. Valdo, bonsoir.
Bonsoir Élisée et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique et heureux de vous retrouver une fois de plus.
Amine Birouk est en direct de Casablanca au Maroc. Bonsoir Amine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous.
De Columbus dans l'Ohio, Amédine Si, fidèle au poste. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Élisée, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
Et puis, dans ce studio avec moi, Lawal Dim Kosuro. Bonsoir Lawal.
Élisée, bonsoir et bonsoir aux amis de VOA Afrique.
Bienvenue à tous. Après les derniers matchs, la Ligue des Champions a repris en Europe. Et en attendant le tournoi des quarts de finale à Lisbonne au Portugal, on a eu droit au dernier match des huitièmes de finale. Alors, Amédine Si, on connaît maintenant tous les qualifiés pour les quarts, avec des fins de match palpitantes, dont un certain Barcelone-Naples.
Élisée, le Barça n'a pas tremblé. Il a décroché sa qualification de fort belle manière en éliminant Naples sur le score de 3-1. Mais il faut dire que le FC Barça, qui n'a que la Ligue des Champions pour sauver sa saison, a bien négocié la seconde période pour se qualifier. Et le FC Barcelone va rejoindre en quart de finale le Bayern de Munich. Il faut dire, Élisée, que le Barça n'a plus que la Ligue des Champions pour sauver cette saison, puisque la Liga a été remportée par le Real, qui a quand même coiffé au poteau cette équipe du FC Barcelone, qui n'a plus gagné cette compétition depuis très longtemps. Donc on va voir avec les quarts de finale l'affiche Bayern contre Barça, Élisée.
Amine Birouk, Lyon scape la Juve, le Real atterre à City.
Il y a eu donc une surprise, c'est la qualification de l'Olympique Lyonnais. Une demi-confirmation, c'est la supériorité de Manchester City sur le Real. Pour revenir à la qualification de l'Olympique Lyonnais, qui aurait parié, qui aurait misé le moindre euro sur cette équipe de Lyon ? Englué au milieu de tableau, pas qualifié pour les Coupes d'Europe face à une Juventus qui vient d'être sacrée champion d'Italie. Le score d'un 0 à l'aller était un avantage plutôt non négligeable pour les Français qui ont su l'administrer avec beaucoup de maestria. Mais je dirais mention très bien pour le jeune Cacré, également pour Memphis Depay qui a été dans tous les bons coups dans l'équipe française. Et puis la qualification de City, elle est due à deux graves erreurs de Raphaël Varane. Mais ça n'enlève en rien le mérite des Citizens qui ont gagné déjà au match aller à Madrid et qui ont infligé à Zidane sa première élimination en match éliminatoire direct de la Champions League. Le Real n'a su se montrer à la hauteur que pendant un quart d'heure avec l'égalisation de Benzema, mais il y a eu une classe d'écart et peut-être même une différence de coaching, d'intensité entre Guardiola et Zidane. Qualification donc méritée pour Man City.
Valdo, l'avantage psychologique à payer côté City face à un Real émotionnellement et physiquement épuisé.
Élisée, je suis tenté de dire que c'est plutôt l'absence de Sergio Ramos qui a lourdement pesé derrière, puisque Varane n'a pas pu assurer, et voilà que ces deux erreurs fatales coûtent la qualification au Real Madrid. À ce niveau-là, les clubs comme Manchester City ne peuvent pas outrepasser de telles occasions. Psychologiquement, le Real n'y était pas non plus, comme vous l'avez dit. Il est aussi vrai que la victoire à Madrid était un élément psychologique détail pour Pep et ses hommes qui ont assuré au match retour. Et je l'ai également dit lors de mes précédentes interventions que Pep reste la bête de Zinedine Zidane qu'il a battu en aller et retour, ce qui nous laisse croire que c'est une qualification méritée pour Manchester City et son entraîneur qui n'ont plus que la Ligue des Champions pour tenter de sauver leur saison et ils doivent bataille est dure.
Lawal Dine Kosuro, on connaît maintenant les affiches de ces quarts de finale. On aura Atalanta de Bergame, Paris Saint-Germain le lendemain. Les Allemands de Leipzig en découdront avec les Espagnols de l'Atlético Madrid. Et puis, on aura le choc, la grande affiche considérée comme la finale avant la lettre. Le FC Barcelone joue Bayern de Munich. Et puis le samedi 15 août, on aura Manchester City-Lyon.
Oui, l'affiche la plus palpitante qu'on n'aurait jamais rêvé avoir en quart de finale, c'est FC Barcelone-Bayern de Munich. Les deux sont quintuples champions de l'UEFA. Les deux sont en pleine forme. Les deux ont donc remporté 4-1, qui d'autre 3-1, le dernier match de huitième de finale. Et donc, avantage psychologique pour personne. Les deux vont sur un terrain avec les mêmes chances.
Le match à éliminatoire direct.
C'est un match coup près. L'erreur n'est pas permise. Donc, on a droit à un très très beau match de quart de finale de Champions League. On aurait aimé que cela nous vienne en finale.
La commission d'arbitrage de la FIFA a dévoilé une préliste de 6 arbitres africains retenus pour la Coupe du Monde qui aura lieu au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022. On revient vers vous, Amine Birouk. Au Maghreb, la Tunisie et la Libye sont absentes dans cette préliste. Le Maroc se rattrape.
Déjà, une première remarque, c'est l'absence de deux cadres de l'arbitrage africain, savoir le Gambien Gassama et le Sud-Africain Victor Gomez. Concernant l'arbitrage d'Afrique du Nord, le Maroc se rattrape puisqu'il n'avait plus de représentant depuis la Coupe du Monde 2006 avec Mohamed Guizez. C'était lors de la dernière apparition d'un arbitre marocain. Donc il a fallu attendre près de 15 ans pour avoir un nouveau représentant. Il s'agit de Redouane Jaïd, présent sur tous les fronts des compétitions africaines depuis quelques saisons. L'Algérien Rorbel est également une valeur sûre de l'arbitrage africain. En revanche, la Tunisie et la Libye ne comptent pas de représentants, mais on remarque que les équilibres régionaux sont respectés, que les meilleurs sifflets africains sont présélectionnés, à une ou deux exceptions près. Il va falloir maintenant maintenir le cap, continuer à briller sur le front national, et notamment dans les compétitions africaines, et surtout souhaiter que la FIFA puisse accorder plus de confiance à l'Afrique, comme ça avait été le cas en 1998 lorsque le Marocain Feu Saïd Belkola avait officié la finale du mondial entre la France et le Brésil.
Ahmedine, Magat Ndiaye remplace Malang Diédou. Par contre, le Gambien Gassama perd ses nombreuses contre-performances.
Tout à fait, Élisée. Il faut dire que Magat Ndiaye est un arbitre expérimenté, hein, puisqu'il a déjà officié à la Coupe du Monde 2018. C'est un bon arbitre. Il a également officié lors de la dernière Coupe du Monde U20 qui s'est déroulée en Pologne. Il a fait beaucoup de matchs avec son aîné Malang Diédou. D'ailleurs, il va essayer de perpétuer la tradition arbitrale sénégalaise puisque les arbitres sénégalais ont souvent tiré leur épingle de jeu au niveau international. Ce ne sera pas facile, mais il a cette lourde tâche puisque Maguette a été présélectionné pour la grande messe du football mondial. Maintenant, on va voir. Et puis, il est le seul. C'est le numéro 1 au niveau du Sénégal. Et je pense que c'est un choix amplement mérité. Élisée.
Valdo, le Congo, en attendant la liste définitive, peut s'en réjouir. Jean-Jacques Ndala continue son ascendance.
Élisée, je peux peut-être vous surprendre en disant que la République démocratique du Congo attend plutôt voir son arbitre retenu à la phase finale de la Coupe du Monde 2022. Quoique c'est une première pour un arbitre des champs, pour un Congolais, c'est pour la deuxième fois que la RDC voit un de ses hommes en noir faire partie d'une liste de présélections pour une phase finale de la Coupe du Monde. Dans la liste des présélectionnés du Mondial 2018, il y avait déjà l'assistant Olivier Safari qui n'est pas passé loin de faire partie de la liste définitive. Voilà pourquoi je disais que la RDC attend mieux que cette présélection. Ils sont 6. S'il faut se référer à la liste de la dernière Coupe du Monde, la CAF avait aligné 6 arbitres. Soit les 6 vont être de ces rendez-vous, soit le nombre sera revu à la baisse au cas où il y aurait élimination parmi les 6 arbitres présélectionnés. Parlant de Jean-Jacques Ndala, il est en pleine ascension. C'est l'actuel meilleur sifflet de la République démocratique du Congo. Il est de tous les rendez-vous de la CAF et de la FIFA sur le continent africain. Il a été à la dernière Coupe d'Afrique des Nations jusqu'en quart de finale. Bien avant cette CAN, les Congolais ont pris part à la Coupe du Monde 1-U-20 Pologne 2019. Il fait partie des arbitres retenus par la Fédération internationale de football association pour une prise en charge mensuelle. Bref, Jean-Jacques Ndalangabo et les fers des lances de l'arbitrage et de l'arbitre de la République démocratique du Congo. Il s'est fait une place qui soit sur le continent. Il ne lui reste plus que cette place, ce rendez-vous de la Coupe du Monde qui est très attendu.
Lawal, comme en Russie, l'Afrique pourrait avoir de nouveau 6 hommes en noir du continent au Qatar.
Oui, c'est une déception pour moi, parce que on a eu six en Russie.
En Russie,
on aurait aimé avoir 8.
Et rien ne prouve si on aura encore 6 au Qatar.
Les 6 au Qatar, c'est une pré-liste, on verra bien. Mais c'est une déception, mais la déception se justifie. Les arbitres qu'on a, ce qui frappe à l'œil, c'est la sortie du Gambien, Gassama, avec ses bourdes à n'en plus finir. Et l'arbitrage africain a encore du chemin à faire. On a encore du chemin à faire. Et si on veut porter le nombre à 8 ou 10, il faudra qu'on se batte, qu'on ait des arbitres irréprochables, qu'on ait des arbitres bien formés, qu'ils soient professionnels quand ils ont le sifflet.
Élection à la Fédération Ivoirienne de Football. 4 candidats ont déposé leur dossier pour la présidence selon les tests. La commission électorale devrait valider les dossiers de candidature, les notifier aux différents candidats par voie d'huissier. Ces derniers pourront saisir la commission de recours en cas de litige. Valdo, Didier ne s'est-il pas jeté trop tôt dans la danse quand on se rappelle Mr. George au Libéria, même si ce n'est pas le même cas de figure?
Élisée, ça c'est une évidence. Nous savons tous dans quelles conditions Didier Drogba a obtenu la possibilité de se faire candidat à ces élections. Il est en outre le candidat du peuple qui malheureusement n'a pas droit au vote. Cette situation me rappelle à l'époque les candidats présidents du Libéria à qui il a été demandé de rentrer aux études avant de prétendre venir diriger les pays. Ce qui fut fait, et aujourd'hui, George Weah est président du Libéria. Didier doit apprendre comment est-ce que ça se passe avant de prétendre diriger une fédération. Ce n'est pas du tout le fait qu'on a été sur les terrains, qu'on a directement droit d'être candidat. C'est un monde à part. Je pense que rien n'est encore perdu pour lui. Il a toutes les chances possibles d'être président de la Fédération Ivoirienne de Football en y accédant par la grande porte. Mais là, tout le monde voit qu'il est en train de forcer les choses, pas de la bonne manière, dont les choses devaient se faire.
Et certains candidats sûrs de leur dossier n'ont pas attendu la validation de la commission électorale pour entamer leur campagne. Le cas de Sori Diabaté, considéré comme le favori de cette élection. L'actuel vice-président de la FIFA et président de la Ligue professionnelle de football est à l'est du pays. Précision avec Siriki Barrault, notre correspondant en Côte d'Ivoire.
C'est par la ville d'Adzopé que Sori Diabaté et son équipe ont débuté leur tournée dans le Grand Est de la Côte d'Ivoire le 3 août dernier. Dans cette ville, comme dans toutes les autres qu'il a pu visiter, Sori Diabaté a rencontré les dirigeants de clubs à qui il a exposé son programme et sa vision du football ivoirien. Pour un de ses proches collaborateurs, qui a réclamé l'anonymat, l'heure est venue pour son candidat de prendre le devant de la scène.
Le discours, c'est de planer son programme, son projet pour le football ivoirien pour les 4 années à venir. Et il a demandé de lui faire confiance. Il a l'habitude de dire qu'il a été copilote pendant longtemps. Il a appris, il a eu les heures de copilotage nécessaires. Aujourd'hui, il peut être pilote. Donc lui-même, il veut être au devant de la scène.
Accusé par certains d'avoir déjà lancé sa campagne bien avant la date prévue, le même collaborateur de Sori Diabaté a fait des précisions.
On est dans la période de pré-campagne pour tous les candidats. Je vous apprends que Idriss Diallo a fait une même journée à l'ouest du pays. Idriss Diallo a fait la même chose. On est dans la période de pré-campagne et c'est prévu par les tests.
Après 4 jours passés dans l'est du pays, Sori Diabaté, qui a le soutien de Sidi Diallo, président sortant de la FIF, a regagné Abidjan dans la soirée du vendredi 7 août. Siriki Barrault, Boaké, VOA Afrique.
Amine Birouk, on risque d'avoir Sori Diabaté et Idriss Diallo le 7 septembre prochain.
Ça veut dire que les cadors en place, les hommes de l'establishment, les alternatives qui sont solidement implantées sur le plan local vont avoir le dessus parce qu'elles bénéficient de l'appui de tous ceux qui décident et qui font aujourd'hui le football ivoirien. On verra dans quelle mesure l'un ou l'autre candidat parviendront à recueillir le maximum de suffrages, de convaincre et de voir dans quelle mesure ils pourront par la suite, je dirais, appliquer leur programme et remettre le football ivoirien sur les meilleurs rails possibles. Il faut juste rappeler que la Côte d'Ivoire, depuis son sacre lors de la CAN 2015, est en chute libre, que les clubs ne sont pas présents dans les compétitions africaines, qu'au niveau des jeunes, la sélection ivoirienne U17 ou U20 ne brille pas particulièrement, et que le recours aux expatriés n'a pas véritablement permis à la sélection d'avoir un second souffle, que ce soit lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018, lors de la CAN 2017 et lors de la CAN 2019 où la Côte d'Ivoire n'a pas été très fringante.
Lawal Dine Kosourou, rien n'est encore joué à la FIFA.
Rien n'est encore joué et tous les regards sont tournés vers la commission
qui devrait donner
les candidatures. Ce qui est marrant, ce qui est paradoxal, c'est que sans la validation des candidatures, quelqu'un se permette de se mettre en campagne. On se donne pas les mêmes chances. Ce n'est pas équitable, ce n'est pas démocratique, c'est simplement de la triche.
Au Burkina, les deux candidats retenus ont attendu la validation de leur dossier
avant de commencer les campagnes. On a beau être vice-président de la fédération, on a beau être président de la ligue, on n'a pas le droit de commencer par danser avant le tam-tam. On doit attendre le lancement officiel de la campagne avant de démarrer tout ce qu'on est en train de faire. C'est juste que la commission doit prendre ses responsabilités et sonner la fin de la récréation.
Voilà qu'aujourd'hui, la pression est énorme. La commission a du mal à rendre public les candidats retenus pour le 5 septembre prochain.
C'est là où c'est encore plus paradoxal. On ne l'a pas eu. C'est tout à fait normal. Il faut réfléchir, il faut tamiser les dossiers, bien les étudier avant de les valider. C'est tout à fait normal. Il pourrait y avoir cette pression-là en interne. Il pourrait y avoir des pressions politiques. Mais la pression la plus importante, c'est celle qu'on voit du côté des supporters. Et qui porte Didier Drogba. Il faudrait dire aux supporters que ce n'est pas eux qui vont voter.
Voilà.
Qu'ils le sachent. Drogba doit également comprendre que ce n'est pas forcément pour être président qu'il est allé à cette compétition, mais il a déjà quelque chose de gagné.
L'expérience,
parce qu'il ne l'a jamais faite. Il fait l'expérience maintenant. Il a au moins donné un nouveau look, un nouveau visage aux élections.
La page médiatique.
Aux élections, à la FIFA. En Côte d'Ivoire, c'est quelque chose d'acquis. Il a maintenant montré qu'il peut avoir un programme. Il a même dit qu'il veut moderniser le foot ivoirien. C'est déjà quelque chose, ce qu'il ne faisait pas. Donc c'est un acquis pour lui. C'est un acquis, une expérience de plus. Et en son temps, il va pouvoir profiter de ça.
Élection également à la Fédération Burkinabé de football. La succession de Sita Sangaré, qui a décidé de ne pas se présenter, est lancée. 7 prétendants, 5 dépôts de candidats et 2 candidats officiels le 22 août prochain. Les délégués devront choisir entre Amadou Traoré et Laza Bansé, le candidat du président sortant. Notre correspondant à Ouagadougou, Kader Traoré, nous en dit plus.
Après la mise en place des 13 ligues régionales de football et 10 districts, place maintenant à l'élection du président de la Fédération Burkinabé de football. 5 candidats avaient déposé leur dossier pour validation. Finalement, ils seront 2 pour le sprint final. Amadou Traoré et Lazare Bansé, qu'on dit le candidat du président sortant. La campagne pour la conquête de la fêtière du football burkinabé est lancée depuis le samedi dernier. Mais avant, pendant le dépôt des dossiers, les gorges étaient déjà chaudes, au point que le président sortant, le colonel Sita Sangaré, est monté au créneau pour calmer le jeu.
Il faut aller avec des arguments vrais vis-à-vis des électeurs, sinon vous vous discréditez. Donc nous interpellons vivement les candidats au respect du fair play, aussi à l'adoption d'attitudes vraiment à même de donner du crédit à notre football et non dans ce contexte déjà tendu à venir en rajouter avec des arguments très spécieux.
Pour cette campagne électorale, Amadou Traoré a choisi Bobo Dioulasso, la seconde ville du pays, pour lancer sa campagne. Se réclamant être un pur produit du football, la conquête de la fédération est un aboutissement pour lui.
J'ai joué à la Saran d'abord, puis j'ai dirigé le RCK, j'ai créé un centre de formation, j'ai repris le contrôle de Majestic. C'est un aboutissement de tout ce que j'ai fait dans le football, de mon attention au football. Le message, c'est demander seulement aux amoureux du football de nous accompagner. Parce que, regardez, tous les grands clubs sont avec nous. Les clubs historiques comme l'Étoile Filante, l'Aspa Yenenga et tous les autres clubs sont avec nous.
Quant à Lazare Bansé, qui jouit du soutien indéfectible du président sortant Sita Sangaré, il se veut être le candidat du rassemblement.
C'est de rassembler et de réunir toute la grande famille du football pour travailler ensemble pour le développement de notre football. C'est important pour moi que tout le monde puisse avoir sa place au sein de notre fédération pour travailler. Ça, ce sera une de mes premières actions que je vais poser.
L'élection du président de la Fédération burkinabé de football est prévue pour le 22 août prochain. Pour l'heure, la conquête de l'électorat bat son plein. Kader Traoré, Ouagadougou pour VOA Afrique.
Valdo, c'est une décision